Le journal Sonia Bernauer-Mia.
Bonjour. L'agression à la croix gammée n'en était pas une. Le ministère public neuchâtelois a classé la plainte d'un homme qui s'était dit victime d'une scarification en janvier dernier. L'enquête a permis de révéler des incohérences dans le récit de l'individu. C'est un cadeau de l'entreprise Tissot à la ville de La Chaux-de-Fonds. Une horloge monumentale trônera à la place de la gare, en principe dès cet automne. L'idée avait été lancée en 2018 lors de la venue du conseiller fédéral Ignazio Scassi. Les patinoires du littoral se parent de rouge et noir aujourd'hui. Le Galamax y prend ses quartiers à l'occasion du repas de soutien pour la relève de Neuchâtel Xamax. Une édition 2022 qui accueille un invité de marque, l'ancien footballeur international français Christian Carambeu. Et les nuages pourraient grignoter du terrain dans le ciel de la région cet après-midi, mais le temps devrait rester sec. Il fait très chaud pour la saison, la barre des 30 degrés devrait être franchie. Une histoire d'agression raciste qui ne tient pas la route. Le ministère public neuchâtelois a communiqué ce matin avoir classé une affaire datant de janvier dernier. Un homme avait alors expliqué sur les réseaux sociaux avoir été assailli par une bande de jeunes parlant une langue germanique un soir alors qu'il promenait son chien à Neuchâtel. Selon ses dires, ses agresseurs lui auraient scarifié une croix gammée sur la joue. Après plusieurs mois d'enquête, le ministère public en a déduit que certains éléments de cette histoire étaient faux. Les précision du procureur général Pierre Aubert.
L'affaire elle-même nous paraissait assez étrange. Les marques présentes de la victime n'étaient pas tout à fait compatibles avec une agression. On comprend que lorsqu'on se fait scarifier quelque chose sur la joue, ça laisse des traces différentes selon que c'est fait par 4 ou 5 personnes qui vous tombent dessus ou soi-même devant son miroir. Et ce que les enquêteurs ont vu ressemblait plus à quelque chose fait par la personne elle-même que par des tiers qui aurait dû maîtriser la victime. Enfin, tout ça paraissait un peu curieux. Naturellement, on a divers moyens d'investigation sur lesquels on ne donne pas tous les détails, mais globalement, il y a des moyens de surveillance électronique parfaitement licites, je précise, qui permettent de retrouver un peu les allées et venues des gens. Et ce qu'on a pu retrouver ou pas retrouver ne coïncidait pas du tout avec ce que disait la victime. Enfin, on était d'emblée assez surpris que ils ne viennent déposer une plainte que 4 ou 5 jours plus tard, à la suite d'un événement qui en lui-même aurait dû être aussi traumatisant.
On parle aussi des marques en question, hein, sur son visage, sur sa joue, qui auraient été faites plusieurs heures avant le moment auquel il disait avoir été assailli.
Là, on a une photographie de ces marques dont l'heure ne coïncide pas avec son récit.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker, le ministère public a ouvert une procédure contre la prétendue victime pour induction de la justice en erreur. Cette affaire avait été évoquée largement par le quotidien local. Vu l'étrangeté des propos de la prétendue victime, la rédaction de RTN avait décidé à l'époque de ne pas s'en faire le relais. Le doute ne sera plus permis à la sortie de la gare de La Chaux-de-Fonds. Tout passant saura dès cet automne l'heure qu'il est. Un garde-temps monumental trônera à quelques mètres des bureaux de la convention patronale de l'industrie horlogère. C'est un cadeau de l'entreprise Tissot à la métropole horlogère. Le chef du service de l'urbanisme, Théo Hugnaelli, revient sur la genèse de ce projet.
C'est une belle histoire. Pour rappel, Biennale du patrimoine horloger 2018. Sur la scène, nous avons le grand honneur d'avoir Ignazio Scassi et François Thiébaut. Et puis Ignazio Scassi fait le constat que dans la métropole horlogère, dans l'espace public, on voit trop peu d'horloges. Et François Thiébaut acquiesce en disant, eh bien, il faut trouver une solution, il faut réparer ce manque. Et Tissot, sous l'impulsion de François Thiébaut, a généré un concours dans le cadre de l'école d'art. Donc ce sont des étudiants de l'école d'art qui ont participé au concours et qui ont réalisé des projets. Il y a eu un certain nombre de projets lauréats. Et aujourd'hui, on arrive à la réalisation d'un projet, sans doute le projet phare.
Vous espérez une inauguration au mois de septembre? Vous allez convier Ignazio Scassi?
C'est une excellente idée. Nous allons en tout cas essayer de convier Ignazio Scassi. On connaît son agenda, mais ce serait un joli clin d'œil. Ce qui est certain, c'est que François Thiébaut et tous les responsables de Tissot, et bien sûr l'école d'art, les étudiants, la direction de l'école d'art seront conviés. Et pourquoi pas aussi la population, c'est des choses qui sont encore à déterminer.
Un sujet de Claire Viget, la ville de La Chaux-de-Fonds a accepté ce cadeau avec plaisir et a maintenant pour mission de l'installer, de le mettre en valeur et de l'entretenir. L'enquête publique court jusqu'au 13 juin. Pierre Danielsen a une nouvelle casquette depuis quelques jours, celle de nouveau vice-président de l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers. Le directeur et propriétaire d'Automobile Seine à Neuchâtel a repris le flambeau du Vaudois André Berdeau au sein de la fêtière qui représente les intérêts des PME auprès du gouvernement. C'est la première fois qu'un Neuchâtelois accède à ce poste, l'occasion de tisser des liens encore plus étroits avec l'économie de la région pour Pierre Danielsen.
C'est aussi un des buts que j'ai. Il faut penser que ben voilà, c'est un peu chacun son tour. Il y a eu un Valaisan, il y a eu un Vaudois. Ça reviendra certainement à une Vaudoise après moi. La suite est déjà plus ou moins tracée. Mais en fait, voilà, ça me permet pendant quelques années de créer des liens, de tisser des rapports entre la politique suisse et l'arc jurassien. Quelques liens supplémentaires, évidemment, par rapport à ceux que nos conseillers nationaux, conseillers aux États et autres font déjà.
Quelle touche personnelle vous souhaitez amener à l'USAM au cours de cette présidence ?
Alors pour moi, cette assez clair parce que ça correspond aussi à mon tempérament. Je me vois beaucoup plus comme un bâtisseur de ponts, quelqu'un qui essaye de trouver des compromis, qui essaye de trouver des solutions. On vit dans une époque où on est un peu cassant aujourd'hui, où on est un peu agressif. Et je pense que ce n'est pas le chemin qu'on doit suivre. On doit vraiment viser le fameux compromis suisse.
Pierre Danielsen était l'invité de la matinale. L'entretien complet est à retrouver en vidéo sur rtn.ch. Le prix de l'électricité risque de prendre l'ascenseur en Suisse. La moitié des entreprises d'approvisionnement en énergie vont augmenter d'au moins 20% leurs tarifs l'an prochain. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par l'Association des entreprises électriques suisses. À titre d'exemple, un ménage de 5 pièces devra payer 180 francs de plus. Pour les entreprises commerciales, par exemple une grande boulangerie ou un restaurant dont la consommation annuelle atteint 150 000 kWh, il faut s'attendre à des coûts supplémentaires d'environ 6 000 francs. Le Genevois Michel Huissoux part à la retraite cet été. Un nom peu connu du grand public, mais qui compte sous la coupole à Berne. C'est lui qui dirige le contrôle fédéral des finances, un organe qui vérifie que chaque franc dépensé par la Confédération l'est à bon escient. Michel Huissoux se démarque par son franc-parler qui lui vaut pas mal d'animosité. Il est venu en personne présenter son dernier rapport annuel ce matin à Berne. Les précisions de Serge Jubin.
Michel Huissoux est le poil à gratter de la Confédération, celui qui dérange, met le doigt sur les anomalies, dénonce parfois avec fracas. Dans une administration fédérale souvent très et trop lisse, il détonne et il est craint. Michel Huissoux, c'est une carrière de 34 ans au contrôle fédéral des finances qui s'arrête à fin août à l'heure de la retraite. À son tableau de chasse, des tarifs médicaux ambulatoires surfaits, l'insuffisance de l'alimentation du fonds de désaffectation des centrales nucléaires et de gestion des déchets nucléaires ou encore la mise en lumière d'écarts cantonaux dans l'application de la loi fédérale. Il pose lui-même cette question. Est-ce respecter la volonté du législateur qu'une demande de prestations complémentaires soit refusée en moyenne dans 18% des cas dans certains cantons généreux, mais dans 44% des cas dans d'autres cantons plus sévères? L'une des dernières études du contrôle des finances concernait la manière diverse dont sont traités les cantons par l'administration fédérale, trop inégale à son goût.
Et en 2021, le contrôle fédéral des finances a surtout surveillé la juste utilisation de l'argent de la Confédération en lien avec la pandémie de Covid-19. On retrouve Serge Jubin.
Des rachetés en particulier, le contrôle fédéral des finances s'appuie sur les donneurs d'alerte, près de 500 annonces en 2021, évoquant l'utilisation douteuse des rachetés en lien avec la pandémie. Le contrôle des finances a clôturé 84 cas, dont 54 présentent des versements non justifiés, 7 de manière frauduleuse. Des demandes de remboursement pour 9,9 millions de francs ont été émises et à la fin de l'année dernière, 414 cas douteux restaient ouverts au SECO.
La Russie affirme que la conquête de la région ukrainienne de Lugansk est presque achevée, ajoutant qu'un peu plus de 1900 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal à Mariupol se sont désormais rendus. La Russie veut par ailleurs créer 12 nouvelles bases militaires dans l'ouest du pays d'ici la fin de l'année. Objectif, hausser le ton face au renforcement de l'OTAN et à son élargissement attendu à la Finlande et à la Suède. Et une attaque au couteau a fait 4 blessés dont un grave en Norvège. L'auteur présumé était marié à l'une des victimes selon les premiers éléments de l'enquête.
Vous écoutez RTN, il est 12h25.
Sport.
La Super Ligue de football passera bien de 10 à 12 équipes dès la saison 2023-2024. La proposition du comité de la Swiss Football League a été votée et adoptée par les clubs ce matin lors d'une assemblée extraordinaire à Ittigen dans le canton de Berne. La saison prochaine fera donc office de transition, un exercice au cours duquel il n'y aura pas de relégation directe en Challenge League. Seul un barrage entre le 10e de Super Ligue et le 3e de la Challenge League est prévu. Le Galamax ouvre ses portes. Le repas de soutien pour la relève de Neuchâtel Xamax se tient aujourd'hui aux patinoires du littoral. Le comité d'organisation a présenté ce matin les nouveautés de l'événement et ses objectifs. Son président, Grégory Allen, espère atteindre un bénéfice de 250 000 francs lors de cette manifestation. Pour cette édition 2022, le comité d'organisation peut compter sur la venue d'un invité prestigieux. L'ancien footballeur international français Christian Carambeu a accepté l'invitation. Pour lui, il est primordial de soutenir la relève du football suisse.
Pour moi, en tant que gamin de l'époque, j'avais les yeux qui brillaient d'envie de pouvoir jouer au football. En ne pensant pas à une carrière, mais simplement de jouer au football, il y avait une lumière. De permettre à chaque enfant d'avoir cette lumière-là, c'est juste magique. Parce que c'est notre responsabilité de toujours transmettre les bonnes valeurs, et je crois que le foot est un moyen de transmettre les bonnes valeurs. J'étais aussi dans un centre de formation qui était le FC Nantes, où j'ai grandi avec d'autres enfants en essayant de pratiquer le sport de niveau, qui est le foot en particulier, mais surtout d'avoir et d'acquérir des connaissances. Et c'est pourquoi j'appuie et où je soutiens toutes les initiatives pour justement aider des jeunes talents à acquérir, pourquoi pas demain, une belle carrière, mais surtout d'avoir ces connaissances-là et de ces valeurs sûres de la vie.
Des propos recueillis par Guillaume Joly, les recettes de ce Galamax ne seront pas reversées en intégralité à la Xamax Academy, mais au fur et à mesure, selon les besoins. Et le ballon rond vit une petite révolution qui coule de source pour Nicole Pétigna. 6 femmes arbitreront cet hiver lors de la Coupe du monde masculine de football au Qatar. La FIFA a annoncé hier que 3 d'entre elles officieront comme arbitre principal, les 3 autres en tant qu'assistantes. C'est une première dans l'histoire de la plus prestigieuse compétition de la discipline. Pour la jurassienne Nicole Pétigna, ancienne arbitre internationale, il s'agit d'un non-événement.
Ça ne me fait rien du tout parce que franchement, c'est normal. Je ne vois pas la différence entre une femme et un homme par rapport à l'arbitrage. Donc pour moi, c'est normal.
Est-ce que c'est quand même pas un plafond de verre qui se brise?
Non, pas du tout, parce qu'on a la VAR. Hein. S'il n'y avait pas eu la VAR, je ne suis pas sûre qu'on les aurait pris. Il a fallu attendre la VAR pour que la condition physique soit moins importante. Moi, ça m'est égal que ça soit une arbitre ou un arbitre. Moi, c'est la qualité, la capacité. Et puis, le jeu est plus intéressant que celui qui siffle. Je suis désolée, moi, le spectacle, c'est les joueurs qui le font. Moi, je profite du match, je ne profite pas de l'arbitrage.
Donc du coup, là, on se recentre sur les qualités, les connaissances du jeu et du règlement.
Ouais, exactement, exactement. Mais force balistique, moi, je ne me pose pas de questions par rapport... Elles sont autant capables qu'un mec, mais par rapport à l'acceptation de la femme sur un terrain de foot au Qatar. Ça risque d'être très intéressant à mes yeux.
Nicole Pétigna au téléphone de Nicolas Meusy. Aucun Suisse ne figure dans la liste des 129 arbitres qui siffleront lors de la Coupe du Monde qui se tient donc de novembre à décembre au Qatar. Très bel après-midi.